Bon, ben, Paul vous a expliqué la situation. Donc, vous allez sûrement me pardonner si l'enseignement ce matin, là, c'est pas aussi poli, polished, comme peut-être elle devrait être, mais Seigneur sait qu'est-ce qu'il fait. Puis ça va vraiment avec l'idée qu'on a abordée il y a 2 semaines, quand j'ai eu la chance de vous partager le message dont le thème était « Quelle est ton approche à la volonté de Dieu? » Et puis la suite, la semaine dernière, sur le serviteur Néhémie, que notre frère François Baudreau nous a apporté, qui nous a parlé « Le juste vivra par la foi. » Parce qu'on pourrait être pris avec une idée que de planifier en conséquence de l'appel de Dieu, que ça ne serait pas encouragé, que ce n'est pas la part du chrétien de planifier, de préparer, d'organiser qu'est-ce que Dieu réserve pour nous. Des fois, on attend que Dieu ouvre une porte, puis après, on marche par la foi. Mais je vais vous dire que la planification n'est pas un manque de foi, mais plutôt elle est une expression de la bonne gestion que Dieu nous a confiée. L'enseignement de ce matin, là, du moins les grandes lignes n'appartiennent pas à moi. C'est pourquoi j'ai pu dire à Paul, oui, je préparerai quelque chose pour demain. Parce qu'à 9 h le soir, là, on dirait que la panique pourrait s'installer, mais j'avais déjà, dans la semaine, eu la chance de méditer sur ce thème du serviteur Néhémie que François nous avait partagé la semaine dernière. Et puis, Dieu sachant le besoin, jeudi, dans une réunion Zoom avec toute l'équipe internationale d'Emmaüs, on était plusieurs. Le frère qui a le petit carreau rouge autour, là, ça, c'est Marlon Govender. Marlon, c'est le directeur international d'Emmaüs. Et puis, il nous a apporté une méditation sur Néhémie. Ah, c'est pas au hasard, là, que ça a été fait de même. François nous a apporté des chapitres, surtout le chapitre 4. Et puis Marlon nous avait partagé à moi et à l'équipe qui était là dans le Zoom, Néhémie chapitre 1 et 2. Et puis c'est là où je suis allé chercher les grandes lignes. Parce que je prenais des notes quand même, là. Mais je n'avais pas beaucoup de notes, mais j'ai quelques notes. C'est sûr que c'est en anglais puis c'est mal écrit, là, parce que je ne m'attendais pas que j'étais vous prêcher puis vous montrer mes notes. Mais juste pour vous dire que avec juste quelques phrases, comme notre frère nous avait partagé, je me sentais déjà confiant, puis j'ai dit à Paul, oui, je peux apporter quelque chose. J'ai reçu quelque chose cette semaine qui m'a beaucoup béni. Et donc, je vous amène un peu. Qu'est-ce qu'un autre a préparé? Parce que je n'avais pas vraiment le temps de commencer à zéro. Mais je n'avais pas juste Marlène pour m'aider. J'avais aussi, qu'est-ce que je vous ai partagé hier? Et quand je vous ai envoyé le courriel hier matin, là, nouvelle ressource intéressante pour faire des études puis aller chercher des pensées, des lectures. Puis c'était sur BibliDocs. Et puis je vous avais partagé ça, bien à ce moment-là, je ne savais pas que j'aurais à préparer un message sur le prophète, pas le prophète, mais plutôt le serviteur Néhémie. Puis on voit, il y avait plusieurs ressources sur lesquelles je pouvais tirer des points puis des pensées. Donc un peu en mettant ces choses-là ensemble, ben c'est qu'est-ce que je vous apporte ce matin. Puis j'espère que le Seigneur va nous bénir comme il m'a béni justement dans toute la semaine, en me donnant déjà en avance quelque chose pour ce matin. Mais j'espère que ça ne se répète pas à toutes les semaines. L'objectif ce matin, c'est de montrer, comme il l'a fait avec Néhémie, que Dieu parfois nous donne par son plan, Un temps d'attente. Un temps d'attente afin qu'on puisse prier et préparer et planifier, même avant que Dieu ouvre une porte. Puis Néhémie nous enseigne qu'une foi mature est une foi qui va prier et planifier et agir. Pas la première fois que je vous amène cette pensée-là, parce que c'est vraiment une des caractéristiques les plus prononcées de la société dans laquelle nous vivons ici. Peut-être dans le monde entier, mais on dirait que c'est encore plus aigu dans les pays industrialisés où que on veut tout de suite. On magasine sur Amazon, on peut aller magasiner 24/7. Je ne sais pas combien de fois dans la dernière semaine que une pensée m'arrive à l'idée, oui, ça prend ça, ou il faut remplacer ça, ou il faut, tu sais, puis on ouvre nos ordinateurs, et puis dans deux jours, le colis arrive à la porte. Nos textos, poup, 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 ça passe la journée à klaxonner, à nous dire qu'on a reçu une notification, puis on lit nos textos, puis on prend des nouvelles, etc. Là, on est attaché à ça. Parce qu'on veut que tout se passe immédiatement. Et puis, on est un peu dans cette même pensée dans notre vie spirituelle. Une pensée nous arrive que Dieu nous a donnée, puis là, paf, on veut partir avec. On veut se lancer. Puis, je vais être le premier à vous dire, c'est un peu la façon que je me prends souvent. Même en contemplant la possibilité d'être impliqué dans le ministère Emmaüs, aussitôt que le besoin avait été donné, puis un fardeau pour ce ministère, bien, il semble que j'étais prêt à commencer comme le lendemain. Je me demandais pourquoi que la maison prenait aussi longtemps pour se vendre. Bien, parce que le Seigneur voulait m'imposer une temps d'attente. Il faut réfléchir un peu, mon chum. Il faut planifier. Il faut s'organiser. Puis on voit ça dans la vie de Néhémie. Dieu travaille rarement dans la précipitation. On ne lui lance pas dans des choses, pas souvent. Ça peut arriver de temps en temps. Entre le moment où Néhémie apprend la catastrophe à Jérusalem et le moment où il agit, comme notre frère nous a rappelé la semaine dernière, il y a une période de 4 mois qui se sont écoulés. 4 mois où il semble rien se passer, mais pourtant, ces 4 mois vont sauver une ville, Jérusalem. Souvent, on croit que les grands exploits de Dieu commencent lorsqu'une porte s'ouvre. Et la Bible nous montre comment il commence bien avant. Il commence dans la prière, dans la réflexion et commence dans la préparation. Donc, on va regarder certaines étapes, certains concepts qui sont attachés à cette pensée que Dieu nous donne justement la permission avec l'intelligence qu'il nous a donnée de planifier. Et puis, ce n'est pas une planification là, comme on s'organise, puis on s'assied avec un papier, puis on dessine tout le plan. Là. C'est quelque chose qui est fait en prière, en méditant, en consultant peut-être d'autres aussi, afin que le plan soit vraiment le plan de Dieu. Et puis si, des fois, on fait une erreur, parce qu'on a fait une erreur, nous, quand on a contemplé le ministère Emmaüs, on avait mis une offre sur une maison à Englehart, pensant que c'était logique. Hein, c'est la façon qu'on a planifié. Le Seigneur a dit, oh, t'as manqué le bateau là, mon chum. Puis ça a tombé à l'eau. Une certaine déception pour mon épouse, parce que ça faisait longtemps qu'on cherchait une place. Mais moi, j'ai dit, le Seigneur vient juste de fermer une porte. Donc, des fois, oui, dans notre planification, on ne sera pas parfait, mais Dieu veut quand même qu'on prenne le temps de planifier. Donc, la première étape, c'est de lire dans la parole de Dieu quelques textes qui nous viennent de Néhémie. Néhémie chapitre 1, au verset 1, on lit ici, « Durant le mois de Kislou, la 20e année du règne d'Artaxerxès, puis là, je ne sais pas comment dire son nom comme il faut, Alors que je me trouvais à Sus, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. On voit déjà un beau principe. Il aurait pu vouloir décoller tout de suite, tellement qu'il avait été frappé par la misère et le déshonneur de Jérusalem. Au chapitre 2, le chapitre 2 ouvre avec ce verset ici, au mois de Nissan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je lui pris et je lui ai donné. Mais jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'une peine de cœur. Donc, on voit le 4 mois. Donc, voici quelques-uns des mois dans le calendrier des Juifs. À partir de Kislou, dont on lit au chapitre 1, juste pour aboutir au mois de Nissan. Donc, ça correspond pour nous des alentours du mi-novembre, mi-décembre, jusqu'à mi-mars, mi-avril, sur notre calendrier qu'on utilise aujourd'hui. Il y a 4 mois, il y a un délai. Et puis le principe qui est bien important à ce moment ici, c'est que Dieu parfois nous met un fardeau. Un fardeau nous est donné même avant qu'on ait l'idée que Dieu nous invite ou Dieu nous appelle à quelque chose. Le fardeau, il est implanté avant. Et ce fardeau est le moyen que Dieu va arriver à donner à Néhémie un ministère, une mission. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Il avait reçu un fardeau. Hanani apporte la nouvelle. Néhémie n'a pas répondu, ben, c'est pas mon problème. Il aurait pu. Il vivait quand même au palais. Il avait une excellente carrière. Il avait une sécurité financière. Il avait un poste très prestigieux à servir le vin au roi. Mais le peuple de Dieu souffrait. La ville de Dieu était en ruine. Et son cœur fut profondément touché. Le fardeau vient avant l'appel. Et Dieu commence souvent son œuvre dans nos cœurs, en nous plaçant un fardeau. Aujourd'hui, peut-être, Dieu place sur ton cœur un fardeau en raison d'une injustice. Peut-être une église dont tu as entendu qui sont en difficulté. Des enfants perdus. Des voisins qui ne connaissent pas le Seigneur. Une famille qui est brisée. C'est souvent le moyen que Dieu peut utiliser à nous donner un fardeau pour nous faire éventuellement passer à l'action. Les 4 mois silencieux, Dieu prépare son serviteur. Lisons les versets 4 à 11. C'est la phase de la préparation. À cette nouvelle, je me suis assis. J'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et en priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit, voici la prière de Néhémie. Éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements. Je t'en prie, prête-moi une oreille attentive, et que tes yeux soient ouverts, Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ce que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèle et je vous disposerai moi-même parmi les peuples, je vous disperserai, excusez, pas disposer, je vous disperserai moi-même parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Pendant les 4 mois, ben, on ne voit pas Néhémie qui court immédiatement au roi. Il ne lance pas une campagne. Il ne cherche pas immédiatement des ouvriers. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il jeûne. Il confesse les péchés. Il médite. Il attend. Pendant 4 mois, rien ne semble changer. Mais tout change. Car Dieu travaille d'abord sur l'homme avant de travailler par l'homme. Ça, c'est une pensée, le fou. Et à réfléchir cette semaine. Dieu travaille d'abord sur nous avant de travailler par nous. La prière de Néhémie est remarquable. Vous avez vu qu'elle contient de l'adoration, mais aussi la confession, la repentance. Il cite une promesse immuable de Dieu. Dieu, tu as dit. La promesse est si son peuple se repentirait. Dieu les rassemblerait dans les régions les plus éloignées sous le ciel pour les amener ensemble. Donc, Néhémie rappelle à Dieu la promesse que Dieu avait faite dans sa parole. En autre mot, Néhémie est en train de dire, écoute, c'est le temps. Ton peuple veut être réuni. Ton peuple veut t'obéir. C'est pas juste une prière émotionnelle, hein? Ça l'est émotionnel. Quand on peut sympathiser, on peut comprendre sa prière, parce que peut-être on est déjà prié de prières qui ressemblent à celle-là. Mais c'est une prière qui est tout à fait biblique. C'est un principe de prier selon la façon qu'on a été enseigné de prier. Puis on voit les mêmes éléments dans le Notre Père, la prière que le Seigneur Jésus-Christ avait utilisée comme un exemple de comment prier. L'adoration, la confession, la repentance. Ensuite, on fait nos requêtes. Parfois, Dieu va nous faire attendre, même après une prière. Mais pourquoi? Ça va nous faire dépendre de lui. Ça va nous humilier. Ça va apporter une certaine maturité. Puis ça va nous donner une certaine sagesse. Parce que quand on a passé par l'expérience d'avoir reçu un fardeau et comme on avait prêché il y a 2 semaines, de répondre oui à la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, ben on gagne dans la maturité parce qu'on reconnaît la fidélité de Dieu. Et lorsqu'on est impliqué dans le ministère que Dieu nous a confié, on marche dans ses voies. Foi après foi après foi, on va voir sa fidélité. C'est un Dieu fidèle qui nous a donné François Boudreau la semaine dernière pour commencer un thème que j'avais aucune idée que je continuerais, puis d'avoir reçu jeudi comme la deuxième partie qui m'a béni tellement énormément. J'ai été tellement béni par les pensées. Puis maintenant, moi, me voici vous les partager. Dieu est fidèle. Il nous écoute. Il connaît nos cœurs. Il est prêt à agir, mais sachez que parfois, il va attendre un peu. Puis des fois, ce n'est pas juste un peu. Des fois, ça peut être de longues périodes. On a plein d'exemples dans la parole de Dieu où ce que Dieu a donné à ses serviteurs d'attendre des années avant de les lancer dans sa volonté pour accomplir une mission. Et la tristesse visible de Néhémie, c'est là où ce que Dieu ouvre la porte. C'est quand même quelque chose, avec tout ce fardeau, on dirait que le roi n'avait pas remarqué, soit que Néhémie faisait un bon travail de ne pas laisser montrer ses émotions, et puis, parce que ça lui travaillait le cœur. C'est pas comme... Il l'a pleuré une fois, puis bien là, il n'y a rien qui se passe, donc on continue la vie, puis on n'y passe plus. Non, parce qu'on va voir dans ce temps de préparation que Néhémie s'occupe beaucoup, et puis il planifie. Puis quand je dis planifie, là, il sait exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'il faut faire pour remplir le besoin. C'est pas comme il va dire, bien, on va arriver là, puis on va voir ce qu'on peut faire. Hein, c'est un peu des fois notre attitude. Dieu nous envoie. Bon, bien, on va s'y rendre, puis on va voir, une fois arrivé, qu'est-ce qui est à faire. Mais dans cette situation ici, il y avait beaucoup de planification à faire. Mais le roi remarque son visage. Néhémie avait continué son travail fidèlement. Il ne faisait pas de drame, il ne négligeait pas ses responsabilités, il servait fidèlement. Mais un jour, c'est là où ce que le roi lui dit, « Pourquoi as-tu un mauvais visage? » Voilà la porte de Dieu. C'est la porte que Dieu ouvre lorsque le roi voit l'inquiétude, la tristesse sur le visage de Néhémie. C'est Dieu qui avait choisi le moment. Néhémie n'a rien forcé, il fait juste attendre et Dieu a agi. Pour nous, une leçon à apprendre, c'est que c'est dangereux des fois de forcer une porte que Dieu n'a pas encore ouverte. Il est aussi dangereux de manquer l'occasion lorsqu'il ouvre la porte. La foi de Néhémie était accompagnée d'une planification qui était remarquable. Puis voici le point central. Écoute, il y en a beaucoup qui s'opposent à l'idée de la foi et la planification comme si les deux étaient incompatibles. Si on a la foi, Dieu va s'en occuper, Dieu va pouvoir, il va ouvrir toutes les portes. Donc, si je planifie, bien, c'est sûr qu'il va y avoir du moi là-dedans. C'est un peu le message que Marlon voulait faire pour nous qui sommes impliqués dans le ministère Emmaüs. C'est un grand ministère à l'échelle du monde, dans 100 pays, avec des milliers d'étudiants. Ça n'avance pas si tu n'as pas fait un peu de planification, que tu n'as pas les ressources en place. C'est compliqué, c'est complexe. Il y a des milliers de volontaires, de personnes impliquées dans le ministère. Donc, ça prend de la planification, puis c'est le point qu'il voulait faire, que nous, comme ceux qui sont impliqués dans le ministère, on s'assoit dans des Zooms, on est plusieurs, puis qu'est-ce qu'on fait? Bien, on planifie, on parle du comment faire. Tout en espérant aussi que dans la collectivité de la sagesse de tous ceux qui sont réunis, mais la voix de Dieu sera connue. Que ce soit le CA de l'église locale ici à Notre-Dame, que ce soit le CA du Cajolibé, peu importe, il y a des groupes qui s'organisent puis ils font des plans. Lequel, là, ça n'a pas été bâti dans une fin de semaine. Ça fait déjà 60 ans plus que le camp est là, puis on est encore en train de bâtir. Puis un comité s'est assis, puis on planifie, mais c'est ça, là, on cherche la voie de Dieu, et souvent, maintenant, on attend des fois pour que Dieu soit ouvre une porte ou par son plan, ferme une porte afin qu'on sache quelle est sa volonté. Et puis on prend du temps à prier. Il y a un nouveau bâtiment qui est à faire, mais ça prend des permis, ça prend des finances, ça prend plein d'affaires. Dieu peut répondre non. On a peut-être l'intention, un plan, mais peut-être Dieu va dire non. Mais peut-être Dieu va dire oui, si c'est sa volonté. Donc, on a planifié, mais ensuite, on attend pour que Dieu nous montre sa volonté clairement pour ouvrir ses portes. Mais la planification, ça fait partie d'un ministère. Et il y en aurait qui nous diraient, non, c'est pas de la foi, ça. Utiliser ta propre sagesse, faire des plans, là, X, Y, Z, puis tu sais, c'est pas correct, ça. Mais l'exemple de Néhémie, c'est un beau, bel exemple, parce que Néhémie a beaucoup planifié. Lorsque le roi demande à Néhémie, qu'est-ce que tu as besoin? Il avait sa liste déjà prête. Il savait qu'est-ce qu'il avait de besoin. Premièrement, il savait où est-ce qu'il allait. Il s'en allait à Jérusalem. Donc, cette destination était déjà connue. Donc, il dit au roi, « Faut que je me rende à Jérusalem. Donc, faut que je parte d'ici. Là. J'en vois pas un autre. Je veux y aller. » Il a réfléchi à ça. Qui devrait être celui qui est envoyé? Puis, il sent vraiment que Dieu y avait donné la mission pour y aller. Donc, il dit au roi, « Écoute, je ne peux plus être ton serviteur là, pour une période de temps. Il faut que je m'absente. Il faut que j'aille et je me rends à Jérusalem. » Puis, il savait exactement combien de temps que ça lui rendra. Parce que le roi lui demande, « Combien de temps durera ton voyage? » Mais Néhémie savait déjà, il avait déjà réfléchi un peu dans son idée, combien de temps que ça prendrait. Puis, il avait calculé justement les ressources. Il avait demandé des lettres, des autorisations, il avait demandé du matériel, puis une protection militaire. Le roi lui demande, qu'est-ce que tu as besoin? All right! Assieds-toi, on va prendre une minute ici. Là, il explique tous les détails. Il y avait déjà un plan, là. C'est quelqu'un qui avait planifié, il avait médité, il avait songé. Tu sais, il a prié, il a jeûné, il a tout fait ça aussi avec une attitude en planifiant que ça soit la volonté de Dieu. Et maintenant, Dieu répond à sa prière parce que le roi lui donne qu'est-ce qu'il avait besoin. Il lui donne congé, il lui donne le matériel, il lui donne les permissions, les autorisations. Il lui donne tout ce qu'il avait besoin pour retourner à Jérusalem puis commencer le travail de rebâtir. Donc, on peut dire qu'il avait réfléchi à la logistique, le comment faire. C'est la même chose que quand on a été appelé pour venir ici. Il y avait de la logistique. On déménageait, on vendait une maison, on achetait une autre, etc., etc. Et puis, venir à Notre-Dame-du-Nord comme pour servir ici, là, ça a été une surprise que Dieu a ouvert une porte une fois arrivé ici. Mais on avait planifié. On ne vend pas une maison sans planifier. Il y a des choses à faire. Puis, le travail au bureau à Englehart, bien, c'est sûr qu'il fallait être assez près d'Englehart pour aller faire le travail là où est-ce que le bureau. Tu sais, on ne pouvait pas faire ça de Témis, c'est un peu loin, là, de voyager là tous les jours ou quelques fois par semaine. Donc, planifier, c'est une forme biblique de gestion. J'aime mieux le mot en anglais « stewardship ». Je ne sais pas, peut-être c'est juste plus fancy, là. Et dans « stewardship », on dirait que c'est plus intentionné, tu sais, qu'on est plus... on fait ça dans la pensée avec l'esprit. Stewardship, anyway, c'est la gestion, mais il n'y a pas un mot qui est l'équivalent pour moi. Je ne sais pas si vous en avez un, là, mais si je vous demanderais de traduire pour moi stewardship, comment vous le direz? Mais moi, j'ai trouvé gestion. Merci DeepL avec la traduction, parce que je n'ai pas pu trouver le mot moi-même. Mais de planifier, c'est quand même une forme biblique de gestionner. Parce que Dieu nous confie du temps. Dieu nous confie les ressources monétaires. Il nous donne des talents, notre famille, une église, un ministère. Il nous donne toutes ces choses fidèlement. Il nous les confie pour qu'on puisse les administrer. Jésus lui-même enseignait la planification. Luc 14, 28 nous dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. » En autre mot, c'est du bon sens qu'il est en train de nous dire. Si tu as un projet, qui ne prendrait pas le temps de planifier? Nous, ici à l'Église, on a un plan. On a un projet. On voudrait voir un culte en anglais ici pour servir les gens de la réserve qui sont anglophones et puis d'autres. J'avais justement reçu une courriel d'une femme qui est à Haileybury en visite et elle voulait savoir si on avait une rencontre en anglais. Parce que si oui, elle aurait été avec nous. Parce qu'elle ne comprend pas le français. Mais elle nous a trouvés sur le site web. Ce n'est pas la première fois qu'on y pense. Ça fait un an là, qu'on prie là-dessus. On pense là-dessus. Mais là, c'est le temps de commencer à planifier. Combien de fois par mois? À quelle heure? Pour combien de temps? Est-ce que c'est avec le groupe principal ou est-ce que c'est une réunion à part? Il y a plein de détails à fouiller, à faire des décisions. Puis ça se fait en équipe, ça se fait en église. Et puis, on voit la façon que Dieu va ouvrir une porte. Qu'est-ce qui va être le mieux? Puis qu'est-ce qui est possible avec les ressources qu'on a, avec le personnage qu'on a, avec les gens qui sont ici? On est dans l'étape de planification. Puis Dieu va ouvrir des portes, il va nous le montrer. Ce n'est pas un péché de planifier. Que ce soit au niveau de l'Église ou que ce soit dans vos foyers, dans les choses que vous avez à décider, surtout ce qui est rapport avec un ministère quelconque, que ce soit un ministère personnel de juste toucher les gens de ton voisinage. Ce n'est pas tous des grands ministères, ce n'est pas tout le temps des grosses affaires comme se rendre à Jérusalem pour rebâtir un mur. Des fois, c'est de rebâtir une famille, les relations dans une famille et les relations dans un mariage. Il y a plein de ministères que le Seigneur nous confie. Voici les versets que j'aimerais terminer avec. On a quand même, dans la parole de Dieu, des exemples comme celui que le Seigneur nous a donné dans l'Évangile de Luc. On a aussi Proverbes 21:5 qui nous dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Donc, un homme diligent, c'est un homme qui fait un projet qui va aboutir à une abondance. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire, ça ne tombera pas dans tes mains. Ce ne sera pas un automatisme. Proverbe 24, 27, « Soigne d'abord tes affaires au dehors, puis tu bâtiras ta maison. » C'est appelé le livre de sagesse pour une raison. Hein? 1 Corinthiens 14, 40, « Que tout ce que tu fasses avec bienséance, hein? » Faire quelque chose avec bienséance, c'est d'avoir réfléchi et avec ordre. Mais c'est parce que Dieu aime l'ordre. Et voici maintenant des exemples de ceux qui ont suivi ses propos. Joseph en Égypte, ce n'était pas 3 mois qu'il a attendu, lui. 7 ans. Pas dans les meilleures conditions. 7 années de préparation pour devenir le prince d'Égypte. Noah en anglais, c'est ça. Vous savez mon problème. Des décennies de préparation, là, des centaines d'années. Là. Bâtir un bateau, là, en plein désert. Avec tes voisins, ils te regardent comme si t'es fou. Il a préparé longtemps. Moïse, le tabernacle qui fut construit selon un plan extrêmement détaillé que Dieu lui avait donné. Il y avait un plan détaillé. Il y avait beaucoup de planification. Tout le matériel qu'ils avaient besoin. Jésus lui-même. Il est venu lorsque les temps furent accomplis, nous dit Galates 4:4. Combien de temps Dieu s'est mis à travailler, à planifier, à préparer pour que son fils vienne. Et puis, Dieu aujourd'hui planifie, prépare et travaille pour son retour. Christ revient, et s'il prend son temps, c'est pour ces raisons qui sont dans le plan de Dieu. Donc, il faut finir avec une application pour nous, pour mijoter dans nos pensées cette semaine. Lorsque Dieu nous appelle, nous devons, premièrement, prier avant d'agir. S'il n'y a pas de prière là, qui est jumelée là, avec ton plan, bien, ça va être vraiment un plan d'homme. Et puis, on se demandera, mais pourquoi que ça n'a pas fonctionné? Mais écoute, tu n'as pas passé du temps à consulter celui qui veut te donner sa volonté. Dieu est là. Il est prêt à nous écouter. Il est prêt à nous montrer. Et des fois, il nous montre sans qu'on le sache qu'il est en train de nous montrer quelque chose. Ce matin, c'est l'exemple parfait. Quand tu reçois un appel à 9h, puis si tu te sens bien pour aller de l'avant, c'est parce que Dieu t'avait déjà donné ce que tu avais besoin. J'avais qu'est-ce que j'avais besoin. Comme je t'ai dit, je ne voudrais pas faire ça toutes les semaines. Parce qu'il y aurait peut-être des dimanches soirs, pas des samedis soirs à 9h, là, que ça serait de la panique. Là, je suis à sec, là, j'ai rien. Ouh! Là, on va pédaler, là. Mais à minuit et demi, je me suis couché en paix. De 9h à minuit et demi, c'est tout ce que ça a pris. Et demande à n'importe quel prédicateur, là. Ça ne prend jamais juste 3h30 pour préparer un message, un sermon pour un dimanche. Mais pas pour moi, anyway. Puis Paul non plus, je ne pense pas à Paul. 3h30, là, c'est pas assez. Mais quand tu as déjà reçu, qu'est-ce que tu avais besoin? Mais 3h30, ça suffit. Il faut prier avant d'agir. Il faut réfléchir avant de décider. Ensuite, il faut passer à la préparation avant d'entreprendre. Ensuite, attendre l'appel de Dieu pour que ça parte. Lorsque Dieu ouvre la porte, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est prêt à marcher? Prions. Merci Seigneur pour ces quelques pensées qui nous viennent du livre de Néhémie. Et Seigneur, combien que nous sommes bénis de cette histoire, de voir un homme, Seigneur, sur lequel tu avais placé un fardeau et tu avais déjà un plan pour lui. Et Seigneur, tu lui as imputé ta sagesse pour savoir comment faire, comment s'y prendre. Et c'est pour nous un exemple. Voici ton Église, Seigneur. On a un plan, Seigneur. Tu nous as mis un fardeau pour nos frères et sœurs anglophones, puis ceux, Seigneur, qui sont perdus, qui sont limités parce qu'ils ne parlent pas français, qui ne peuvent pas profiter du culte français. Maintenant, Seigneur, donne-nous ta sagesse afin qu'on puisse préparer pour avancer, Seigneur, dans un ministère qui répondrait aux besoins de nos voisins anglophones. Équipe ton Église, place ton fardeau sous plusieurs, Seigneur, afin qu'on ait le personnel nécessaire pour aller de l'avant dans ce projet. Puis, Seigneur, donne-nous de ne pas reculer devant les défis que ça pourrait représenter, Seigneur, de marcher dans tes bonnes voies. D'annoncer, Seigneur, ta parole en tout temps et en tout lieu. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Et puis, merci de nous accompagner encore cette semaine. Donne à chacun de nous, ton Église, des choses sur lesquelles on peut vraiment être nourri par ta parole, Seigneur. Puis, donne-nous, Seigneur, de jamais oublier de prendre du temps avec toi en prière, de te consulter, d'apporter nos fardeaux, Seigneur, afin que nos vies soient un peu plus légères. Merci encore de nous écouter. On demande ces choses dans le nom puissant de notre médiateur, notre avocat auprès du trône de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et bonne semaine à tous.